Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous voici ensemble à nouveau pour la suite du roman de Jean Giono, Regain. Il n'y a plus qu'un petit carré de jour sale tendu devant la porte. Il reste encore un ventail de bois qu'on peut fermer en faisant attention aux vieux gonds. Ce qu'on pousse dehors comme ça, c'est un ciel sale et gris, tout troublé de nuit. On est enfin à l'abri. La lumière de la bougie est là comme un fruit roux sur la paille. Écoute, dit Gédémus, on a bien marché aujourd'hui et puis ce vent nous a battus. On va ouvrir une boîte de sardines. Tant pis, on fait la fête. Et puis on va boire un bon coup. Ce midi, on est parti de là-bas comme si on avait le feu aux culottes. Donne la gourde, celle du vin. Il y a deux gourdes qui tiennent chacune dans les 2 litres. Dans une, il y a le vin, dans l'autre, il y a de l'eau. Il est bien entendu que c'est pour mélanger. Bois-en du pur, toi aussi, va, Arsule, et donne la boîte de sardines. En ouvrant la boîte, l'huile coule sur les doigts de Gédémus. Il les lèche. C'est des fameuses. Arsule a préparé 2 tartines de pain. C'est à ce moment-là que c'est venu. Il ne parlait déjà plus, il mangeait. Il regardait la flamme de la bougie et ils pensaient chacun à leur chose. Et pendant un bon moment, ils se sont dit « C'est le vent qui est revenu ?» Puis ils sont restés encore comme ce tantôt, la bouche pleine, à écouter. Et il n'y avait rien à écouter. Alors ils se sont remis à manger. Le regard de Gédémus a quitté la bougie et il est allé à la porte. Autour du ventail, il n'y avait plus le cadre du jour gris. La nuit pesait de l'épaule contre la porte. « Ça va ?» a demandé Gédémus. « Oui, » a dit Arsule. Après ça, il y a eu un long moment de calme. Ça leur a fait du bien de dire 2 mots. Puis, à force de durer, ce calme a été bien plus désagréable que le reste et ils se sont remis à parler. « Tu veux qu'on ouvre encore une boîte de sardines, Arsule ?»« Bah, on n'en a que 2, tu sais. Ça fait à peine le premier jour. » C'est vrai, il semble qu'ils sont sur le plateau depuis longtemps, longtemps. Ce qui était avant est devenu si petit. Tu sais à quoi je pense, Arsule ? Je pense que dans la vie, on est tout le temps trop bête. Quand on a de bonnes choses, on est toujours là à les garder pour le lendemain, pour ce qu'on est sur la terre. Je ne dis pas ça pour les sardines, là ça va bien. On les mangera demain. Demain, c'est pas loin. Quoique d'ici là, il y a 1000 fois le temps de... Je dis pas ça pour nous. C'est le parler qui fait le parler. Mais crois-moi, la moitié du temps, on est des ânes. Une fois, c'est une chose, une fois, c'est l'autre qui vous tombe dessus. Et, mon ami, c'est trop tard. Raclé. Si on savait tout. Il n'y avait toujours rien à écouter, rien que le Gédémus. Il avait l'air de se soulager en parlant. Arsule écoutait les mots, mais autour des mots, il écoutait le silence aussi, parce que vraiment, il y avait eu tout à l'heure dans ce silence quelque chose de pas naturel. Et on avait beau parler et parler, ça ne faisait pas que ce qui était venu tout à l'heure ne revienne pas. La preuve que Gédémus s'y pensait aussi, c'est qu'il regardait la porte de temps en temps. Si on savait tout, c'est pas que ça me fasse quelque chose, non, c'est pour dire, mais c'est comme moi, à mon âge, de courir comme ça dans ces pays pas catholiques. C'est pas ça, il y a plus de 30 ans que je passe par là. Je sais ce que je fais, je ne suis pas un enfant, c'est pour dire. Plus de 100 fois j'ai eu l'occasion de prendre un bout de terre et plus besoin de sortir, on serait tranquillement là-bas, à Saute. La bougie est à moitié. On ne peut pas parler comme ça toute la nuit. Quand on dort, on n'entend rien. Tu es fatigué, Arsule ? On dort ? Avant, il est allé jusqu'à la porte. Il a écouté, puis il a entrebâillé la porte et il a passé la tête dehors pour voir. Il n'y a rien sur le plateau. Il est blanc jusqu'à la perte des yeux. Il n'y a rien dans le ciel. La lune, toute nue, est seule, au milieu de la nuit, comme une amande. Ils ont dû dormir assez longtemps. La fatigue d'abord, et puis aussi l'envie de ne plus rien entendre, de ne plus rien voir. Comme Arsule commençait à s'endormir, elle n'a plus su ce qu'elle faisait, et ça a été son corps en travail qui a commandé. Elle s'est approchée doucement de Gédémus, elle s'est serrée contre lui, elle s'est mise là contre la cuisse de l'homme, elle a serré la cuisse de l'homme dans ses cuisses et le bourgeon de ses seins était contre le dos de Gédémus. Là, elle s'est endormie. Ils ont dû rester comme ça assez longtemps et puis tout à coup ils se sont réveillés. Les choses avaient marché pendant ce temps. Le plateau, le vent, la nuit, tout cela avait eu le temps de se préparer et c'était fin prêt. Il y avait dessous la porte une épaisse barre d'argent large de 4 travers de doigts. Et c'était la lumière de la lune. Il était venu un vent de nuit de forte haleine. Il galopait, bride abattue, à travers tout le plateau. Il avait un long gémissement comme pour boire tout le ciel. La gineste craquait sous ses pieds. Les genévriers écrasés criaient. Les figuiers griffaient les murs et leurs grandes souches grondaient dans la terre, sous les pierres. Il y avait tous ces bruits. Mais ce n'était pas ça qui les avait réveillés. C'était le bruit d'un pas et d'un claquement d'étoffe. « Tu entends ?»« Oui. » Souffle Arsule, ne bouge pas. C'est à côté. Ça tâte les murs. Une pierre tombe. Ne bouge pas, répète doucement Gédémus à Arsule qui ne bouge pas. Ça passe à travers le fouillis des figuiers. On s'arrête pour décrocher l'étoffe, puis le pas. Ils sont serrés l'un contre l'autre. Il ne bouge pas. Il ne faut pas que la paille craque. Par leur bouche grande ouverte, ils font passer de longs morceaux de leur respiration doucement, longuement, sans bruit. Il faut qu'ils soient là dans le milieu de l'ombre, muets, immobiles, comme de l'ombre. Il le faut. Ce n'est plus pour rire. Et tout d'un coup, il le faut tellement qu'ils arrêtent leur souffle. Une ombre a éteint la barre d'argent qui luit sous la porte. Ça y est, c'est du bon cette fois. C'est là, devant, un bruit de rien frôle la porte, tâte le bois. Il semble que c'est une main qui s'appuie sur le ventail pour voir si c'est fermé. C'est fermé. La grosse pierre qui tient fermée a un peu bougé. Elle a grincé. Tout léger que c'est quand même une force qui est là, qui est venue voir. Qui a tâté. Et c'est parti. L'eau de la lune s'est remise à couler, toute claire sous la porte. Ils ont attendu un bon moment, sans rien dire, sans bouger, toujours pareil à de l'ombre. Ils avaient les yeux tout ouverts, et ils regardaient la barre de la lune parce que c'était ça, l'indication. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus que le vent. C'est encore au bout d'un plus long moment que Gédémus a osé se tourner, et il est venu face à Arsul. Et il avait sa tête, sa bouche, tout contre sa tête, la bouche d'Arsul, et il lui a dit « Tu as vu ?»« Oui. » « Écoute, cet après-midi sur le plateau, quand je suis allé pour regarder à l'endroit où ça avait fait hop, l'herbe était toute couchée, comme sous un poids, comme sous le poids d'une bête, et elle était en train de se relever. Mais quand je suis arrivé là, elle était aplatie. Voilà. Et tu as vu ? Il y a quelque chose entre nous, cette fois. » La porte est ouverte et il fait grand jour. « Arsul, comment veux-tu qu'un pays comme ça nous fasse du mal ? Regarde-le, tiens, c'est pas beau, ça ?» Tout bleu d'iris, terre et ciel, avec à l'ouest un bouquet de nuages. Le jeune soleil marche enfoncé dans les herbes jusqu'aux genoux. Le vent éparpille de la rosée comme un poulain qui se vautre. Il fait jaillir des vols de moineaux qui nagent un moment entre les vagues du ciel, ivres, étourdis de cris, puis qui s'abattent comme des poignées de pierre. Ah, on est de beaux soldats, l'un et l'autre. On a sorti la machine à aiguiser. Elle est là, sur ses roues, dans le droit fil d'un petit chemin. Elle va partir. Arsul est attelé. Le jour est beau comme une large pièce d'argent toute neuve. On n'a qu'à marcher vers le soleil et dans 2 heures on sera à Pimprenelle. De là, à la fin des rates, il faut encore 3 heures, mais c'est bon matin. En tout comptant, et une chose et l'autre, et la pause qu'on fera pour dîner et un bout de sieste pour remplacer le temps perdu cette nuit, on arrivera là-bas bien avant le soir, en tout comptant. Mais il n'a pas tout compté. Et on est parti. Ce devait être vers le milieu du matin et Gédémus a tourné la tête pour regarder derrière lui. La Trinité est au fond des Landes comme un petit tas de cendres froides. Un peu plus tard, il a encore regardé et il n'y avait plus de la Trinité, il n'y avait plus que le ciel à la place. Alors devant, il y avait du ciel et du ciel aussi de chaque côté, et sous les pieds, il y avait ce sol poreux qui sonne comme un plafond de cave, plus d'herbe, mais des touffes de genévriers toutes arc-boutées. On était cette fois dans le grand large du plateau, comme au milieu d'une mer. Arsul s'est arrêté. « Ça vient de faire hop, là, devant !» Gédémus se gratte la tête. « Loin ? Non, là, devant !» Là devant, c'est l'herbe plate. « Écoute, dit-il, tournons un peu à droite alors. » Alors, on s'en est allé hors de la bonne route, dans des quartiers perdus, où le ciel était collé si fort contre la terre qu'il fallait forcer de la tête pour passer entre les deux.
Châteaux et donjons, rien à l'horizon. Châteaux et donjons, rien à l'horizon. Sous le poids des machines et des banques en courbe les chines, je voudrais la terre dans mon dos, dans mes reins, dans ma chair. Rien à l'horizon du ciel moribond, de châteaux et donjons du ciel moribond, des traites et des crédits. Pauvre cochon qui s'en dédie, je voudrais sentir la terre. Dans mon doute, dans mes reins, dans ma chair. Donjons et châteaux, partir à Apollo, avec la terre et l'eau, partir à Apollo. Plus d'abri pour l'averse, au creux des chemins de traverse, je voudrais sentir la terre. Dans mon doute, dans mes reins, dans ma chair. Donjons et châteaux, juste ce qu'il faut. Les os avec la peau, juste ce qu'il faut. Sous les tôles rouillées, tous les moineaux font leur nichée. Je voudrais sentir la terre. Dans mon doute, dans mes reins, dans ma chair. Châteaux et donjons, rien à l'horizon que la corde au plafond. Rien à l'horizon, de l'herbe dans la cour, et le trait tiré sur le jour. Et je vais sentir la terre, dans mon doute, dans mes reins, dans ma chair. Je vais sentir la terre, mon doute dans mes reins, dans ma chair. Je vais sentir la terre, mon doute dans mes reins, dans ma chair.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
À nouveau le roman de Jean Giono, Regain. Le matin les a trouvés blêmes comme des oiseaux nus. Ils étaient dans un creux d'herbe, ils se serraient l'un contre l'autre. Quand le jour les a touchés, ils ont levé la tête et les yeux, qui n'ont pas dormi, ont reconnu la terre. Au-dessus du plateau, il y a une petite vapeur qui monte comme une fumée. « Je sais où on est, » dit Gédémus, « on est près d'Aubignan. »« Ça va pas mal, Arsule. Après, c'est Vacher. Ça va pas mal. » Le soleil leur a redonné du goût et ils ont osé se dresser. Arsule a passé son bras dans la bricole, on est reparti. Là devant, Gédémus sait que le plateau se casse brusquement et qu'il y a Aubignan. Quelques maisons, un vallon avec des arbres, de l'eau. Ben ça va pas mal. L'aube est chaude. À l'est, le ciel est ouvert comme une porte de four, plus d'herbe. Le plateau penche un peu et sur cette pente, le vent a entassé tout son sable. Arsule tire comme un âne, avec tout le poids de ses hanches et de ses reins. Cette émotion de sa chair, ce travail du sang, ça vient de revenir à croire que c'est une malédiction. Ses seins sont encore comme des bourgeons d'arbres. Elle tire sur son corsage parce que le corsage frotte le bout de ses seins et que ça l'énerve. Elle renifle pour mieux sentir l'odeur de Gédémus qui sue. Elle sue, elle aussi. Elle se penche vers ses aisselles pour sentir son odeur à elle. Elle geint en elle-même. « Maman, maman !» comme pour la peur. Aubignan est de la couleur du plateau. On ne le voit pas à l'avance, puis d'un coup, on y est. Mais j'étais passé une fois, moi, dans le temps, il y avait encore un peu de monde. Il y avait le Jean Blanc qui restait sur la place de l'église. Allons voir un peu. Sur la place de l'église, il n'y a plus que l'herbe. On a cloué la porte de Jean Blanc. Il y avait le pôle Soubéran dans la rue après. Il y avait l'Osias Bonnet qui tenait l'épicerie. Il y a une maison toute ouverte au-dedans noir et qui sonne comme une grotte dès qu'on met le pied sur le seuil. C'est la carcasse, pas plus. Quand les yeux sont habitués à l'ombre, on voit au fond comme un arbre en or et en lumière. C'est une grande fente qui a partagé le mur maître depuis la fondation jusqu'aux tuiles. Il y avait aussi un qu'on disait le Penturle, avec sa mère. Mais en dehors du village, en bas, tu vois, près du cyprès, viens, on descend. Là aussi, la porte est fermée. Pourtant, il y a un bio où on a fendu du bois à la hache. Il y a des entailles fraîches dans le bio et des copeaux frais dans l'herbe et un sentier qui entre droit sous la porte et qui est bien vivant encore. Pourtant, il y a une ceinture de laine bleue pendue à une branche du cyprès et le vent la balance. Mais à bien la regarder, elle est vieille.
« Oh, l'homme !»
crie Gédémus. Puis il dit « Celui-là, il n'y a pas longtemps qu'il est parti. » Devant la maison, il y a de l'herbe verte et douce. Il y a le cyprès. Et comme un fait exprès, une voix bonne à entendre, douce à l'oreille. Et puis, il y a des abeilles qui ont niché sous une tuile et qui grondent là dans le ciel. Et puis, comme un miracle, à n'y pas croire, à s'en frotter les yeux, il y a un tout petit lilas fleuri.
La pose, Arsule, la pose.
Gédémus, couché, s'étire comme un chien. On dormirait presque. Non. Elle ne pourra pas dormir avec ce besoin qui est en elle comme une eau qui effondre tout. Son cœur est une motte de terre qui fond. Elle est assise dans l'herbe, il y a des pâquerettes entre ses jambes. Elle n'est plus qu'une peau toute vide, elle entend chanter au fond d'elle cette eau aigre comme du feu. Elle ouvre son corsage, elle sort ses seins, ils sont durs et chauds, et elle en a un dans chaque main. C'est à ce moment-là qu'elle a vu sur le seuil blanc de la porte une flaque de sang épaisse, comme une pivoine. Penturle a pris sur la paille une pomme de l'automne dernier, elle est froide et de peau verte. Il la chauffe dans sa main, il la chauffe avec sa bouche en soufflant dessus avant de mordre. Il est assis devant sa porte. Ça a fait du chemin depuis que la mamèche est partie. Dans ce coin, un petit bout de lilas va fleurir et le vent de la plaine a porté jusqu'ici une grosse abeille toute folle et qui s'est mise à renifler les tuiles. Mais elle va mourir, c'est trop tôt, de quelques jours. Il est allé guetter le renard. Ça se fait avec beaucoup de silence et peu de gestes. On se cache en colline et on écoute. Si on sait lire dans les bruits de l'air, on apprend qu'il couche là, qu'il va de là à là, qu'il cherche l'écaille, qu'il suit les perdreaux. Après, caler le piège, c'est un jeu. À la guette du renard, Penturle l'a rencontré le vent, le beau vent tout en plein. Bien gras et libre, plus le vent de peu qui s'amuse à la balle, mais le beau vent large d'épaule qui bouscule tout le pays. À le voir comme ça, Penturle s'est dit « Celui-là, c'est un monsieur ». Il ne sait pas bien comment ça se fait, il était couché dans l'herbe et c'était pour le renard. Puis petit à petit, il a glissé vers autre chose, au moral. Il faut dire que là où il est, c'est sur cette bosse seule face au midi où tout le mouvement de l'air passe. Le vent s'appuie sur lui de tout son poids par larges coups longs et lourds, puis s'envole et c'est un ronron comme le chat. Il est là à plat ventre sur la terre et le vent presse comme une éponge. Cette chose du renard et du glapi qu'il faut guetter, ça coule de lui dans l'herbe et la terre le boit. Ces autres choses auxquelles il pensait, qui sont dans sa peau comme des vinaigres ou des eaux douces, elles coulent aussi de lui pressées de vent. Et c'est aussi l'herbe et la terre qui le boivent. Le voilà vide tout d'un coup. Le vent toque du doigt contre lui comme un baril pour voir s'il reste encore du jus, non. Panture le sonne sous les doigts du vent comme un baril vide. Il est revenu à la maison presque au soir. Il n'y avait jamais eu de renard sur la terre. Il s'est aperçu que c'était presque le soir parce qu'en marchant la tête haute vers le vent, il a vu le soleil qui passait ses cornes par le fenestron du clocher. Il se sent tout lavé de haut en bas comme un drap avec une brosse. Il est tout blanc, il est tout neuf. Il va sur la terre avec un cœur propre. Le jour d'après, il a quand même entendu le renard. C'est la grosse habitude, la mécanique de la tête qui tourne encore de son propre élan. C'est venu du Valga, puis du chaume bâtard, donc dans le creux des terres fortes. La bête passe quelque part au milieu des pierres, ça va. Le piège est de bon acier. Il claque de la mâchoire comme un maître. De la tripe de lapin pourri, graissez le ressort, et ça y est. Panturle se redresse. Il voit l'aubépine du ruisseau. Elle est neuve, elle aussi, et fleurie. Elle écume. Comme il est là, une pelote de plumes et de cris lui vient frapper la poitrine, tombe à terre, se partage et rejaillit de l'herbe entre deux moineaux. « Oh, follet ! On n'y voit plus alors ?» Au même moment, le vent le ceinture d'un bras tiède et l'emmène avec lui. La raison qu'il se donne, c'est qu'il est de trop bonne heure pour piéger. Le vrai, c'est qu'il lui semble partir en promenade avec un ami. Il y a Caroline qui belle. Ce n'est plus sa voix de vieille bique, mais un petit tremblement doux d'enfant chèvre. Elle se plaint comme ça aux quatre coins de l'air. Elle gémit devant le cyprès, devant l'aubépine. Elle a mangé la première fleur du lilas. Ce matin, il n'est sorti de ses mamelles que deux ou trois gouttes de lait jaune qui sont restées dans les poils. Panturle insiste du pouce. Caroline Rue se dégage et va gémir contre la lucarne qui souffle le souffle en fleurs du vent. Le bol est vide. Et alors, Caroline, et alors, c'est déjà fini ? Elle vient vers lui, toute tremblante, pousse sa tête rocailleuse contre la tête de l'homme, doucement, en caresse et jeun. « Et alors, Caroline, et alors ?» répète Panturle. Cette aubépine où se pose le soleil dès qu'il dépasse la colline, elle a un rossignol dans ses feuilles. On dirait que c'est elle qui chante. Il est venu dans le petit pré une ondulation d'herbe et il ne faisait pas de vent. À cause de ça, Panturle a vu la couleuvre qui s'en allait sa route, toute frétillante, vêtue de neuf. Quand elle a été au bout du pré, elle s'est retournée. On voyait qu'elle n'avait rien d'autre à faire que de nager de tout son corps dans la fraîcheur verte. Il y a maintenant sous l'auvent des tuiles un petit essaim qui cherche un abri. On dirait une poignée de balles de blé que le vent porte. Il est venu aussi, c'était dans les midis, un grand chien inconnu. La lisière du bois s'est ouverte, il a hésité au seuil du pré. Il était maigre et tout en os, comme un cep de vigne. Sa gueule rouge cherche le fil du vent. Il est allé sur le ruisseau et il a bu. Il buvait. Puis il levait la tête et regardait Panturle un moment. Il se remettait à boire. On entendait l'eau qui descendait dans son gosier par blocs épais et ça s'entassait dans sa peau avec du vent. D'un coup, une odeur a dû passer et il s'est lancé derrière elle. On sent que la terre s'est passionnée pour un travail qui éclate en gémissements d'herbe et passage de bêtes lourdes. Les bêtes sont lourdes. Il y en a bien des légères et des maigres qui bondissent, des mâles, mais il y a surtout des bêtes lourdes, comme gonflées, et qui passent lentement dans les clairières et qui cherche sous les buissons et qu'on entend fouiller sous les chênes dans les feuilles sèches. Voilà, nous avons terminé pour ce soir donc le roman de Jean Giono Reguin que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.